Eh bien, chers amis, merci beaucoup d'être là. Merci de votre sollicitation, puisque c'est pour moi toujours un plaisir de parler en général, mais a fortiori de parler du Talmud. Alors, mon propos d'aujourd'hui va en fait se présenter comme la deuxième partie ou le complément d'une conférence que j'ai déjà donnée à Chambéry il y a à peu près un mois. Je sais que beaucoup d'entre vous donc ne pouvaient pas assister à cette conférence. Et donc j'avais choisi de vous proposer d'en reparler. Alors, parce que la conférence de Chambéry a été enregistrée, je préfère aujourd'hui ne pas répéter le propos de Chambéry, mais proposer plutôt un commentaire qui viendra compléter ma première conférence. Donc la première conférence de Chambéry portait sur l'universalité du Talmud. Je me demandais si l'étude du Talmud pouvait être universalisable, et plus précisément si un non-juif avait le droit d'étudier le Talmud. Alors, les deux questions ne sont pas tout à fait synonymes parce que se demander si le Talmud est universalisable, c'est poser la question du contenu. Se demander si un non-juif a le droit d'étudier le Talmud, c'est rappeler que le judaïsme est d'abord une religion normative. Donc la question doit se poser en réalité sous forme juridique. Donc ceux qui sont intéressés, la conférence a été enregistrée, sera mise en ligne sur le site de l'Église réformée d'Annecy qui nous héberge à chaque fois qu'on fait des conférences et je les en remercie. Donc pour aujourd'hui, je préfère essayer de présenter le Talmud à la fois dans ses méthodes et dans ses enjeux. Donc vous pouvez voir sur le plan détaillé que je vous ai proposé l'étude du Talmud pour les Juifs, méthodes et enjeux. Alors plutôt que de vous proposer une approche synthétique du Talmud, plutôt que de vous proposer une approche historique de la rédaction du Talmud, de la publication, etc. Je me suis dit que c'était en forgeant qu'on devenait forgeron, donc c'était en talmudisant qu'on pouvait devenir talmudiste. Donc je préfère essayer de vous montrer de quoi il retourne dans le Talmud à travers l'étude de certains passages. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu un Talmud, de près ou de loin, alors de loin, ça se présente comme ça. Voilà, il y a en tout 63 traités du Talmud. Alors si vous retournez la feuille, je vous ai photocopié une page parmi les près de 6000 pages que comporte le Talmud. 6000.
6000.
6000 pages. Donc c'est un texte tiré du traité Bava Metzia que l'on commentera dans quelques instants. Alors vous voyez Talmud de Babylone. Alors il existe en réalité deux Talmuds, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem, comme son nom l'indique, a été rédigé en Eretz Israël. Le Talmud de Babylone est dû plutôt à des rabbins donc de Babylonie. Et c'est aujourd'hui le Talmud de Babylone qui fait autorité. Donc chaque fois que les rabbins, que les décisionnaires ont à trancher la loi, ils se basent sur le Talmud de Babylone. Donc il sera aujourd'hui très peu question, sauf à une occasion, mais il sera très peu question du Talmud de Jérusalem. Alors, en gros, le Talmud donc, se présente de la façon suivante. On a une colonne centrale qu'on appelle Amud. Donc Amud, c'est ce qui se tient droit, donc c'est la colonne. Alors c'est le texte central qui fournit la base de l'étude. Ce texte central se divise en fait en deux parties. Alors si vous regardez sur la photocopie, à droite de la colonne centrale, vous avez un petit trait vertical en grisé. Donc vous avez trois lignes au-dessus de ce trait. Vous avez trois lettres hébraïques qui sont écrites un peu plus en caractère plus important que les autres.
Oui.
Donc ça, c'est le début de la Mishnah. Donc c'est une donc on a même Tav Nun Yod, c'est Matnitin, c'est l'abréviation araméenne de ils ont enseigné. Donc là, c'est la première partie du Talmud, la Mishnah. Pour faire très vite, la Mishnah, c'est le résumé des lois que l'on doit appliquer. C'est un code de loi, si vous voulez. Ensuite, vous avez cette fois sur la ligne qui est en face du haut du petit trait gris. Donc vous partez du trait gris à droite, vos yeux suivent la première ligne et vous rencontrez deux caractères un peu plus importants, là aussi. Guimel même. Donc, ça, c'est la Guémara. Est-ce que vous voyez? C'est, donc c'est sur
oui.
La
première,
c'est la voilà, c'est la première ligne, c'est la ligne qui est à la même hauteur que la là. Que le trait grisé dans la marge. D'accord. Donc là c'est la Gemara. Alors là aussi pour faire très vite, la Gemara c'est l'ensemble, la compilation des commentaires rabbiniques sur la Mishnah. La Mishnah en général est écrite dans un hébreu extrêmement concis, dans un hébreu du point de vue grammatical qui est très clair, mais l'hébreu est tellement concis que la loi en devient énigmatique. Donc pour comprendre de quoi il retourne dans la loi, eh bien les rabbins en sont entrés dans des discussions, parfois vives, on va le voir, et c'est la Gemara donc, qui regroupe ces discussions. Et aujourd'hui, lorsqu'on étudie le Talmud, en fait on étudie la Gemara. On étudie les controverses rabbiniques à propos de la Mishnah. Voilà. Les textes qui sont autour sont des commentaires sur la Gemara qui elle-même commente la Mishnah. Et les textes encore plus marginaux, complètement à droite ou complètement à gauche, sont donc des commentaires sur les commentaires des commentaires de la Mishnah. Et ainsi de suite. Donc ce que je vais proposer, c'est donc un commentaire sur les commentaires des commentaires des commentaires de la Mishnah. D'accord ? Voilà. Donc voilà comment se présente le texte talmudique. Alors, pour parler des méthodes et des enjeux, en ce qui concerne les, je vais distinguer deux questions. En ce qui concerne les méthodes, je vais me demander avec qui on peut étudier. Donc ça va concerner avec qui, et les enjeux, ce sera pour qui. Donc je vais distinguer ces deux questions. Alors la première question, elle va porter, donc pour l'étude avec qui, elle va porter sur un premier passage, c'est le traité Pessahim, donc le traité dans lequel il est question des lois de Pessah, donc de la Pâque juive. C'est un traité très important et au folio 49b, on a Rabbi Chiya qui dit la chose suivante, on n'a pas le droit d'étudier, donc sous-entendu d'étudier la Torah, on n'a pas le droit d'étudier avec des Amé à Aretz. Alors, ça s'écrit, je vous l'ai indiqué donc dans le grand A. Amé à Aretz, littéralement, ça veut dire les peuples de la terre. Donc, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, littéralement, avec les peuples de la terre. Alors, ce que Rabbi Chiya essaye de faire ici, c'est d'opposer deux catégories de personnes. On a donc les Améa Aretz d'un côté, et puis les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire, je préciserai par la suite, mais disons les étudiants du Talmud, ceux qui étudient le Talmud. Bon, cette opposition Talmidei Chachamim, donc en gros les sages, les étudiants du Talmud et les Améa Aretz, elle est structurelle. C'est quelque chose qui va structurer toute la controverse qu'on trouve sur cette page du Talmud et qui va structurer plus globalement le judaïsme rabbinique. Le judaïsme rabbinique, c'est un judaïsme qui est né du courant pharisien et le courant pharisien se structure en partie à partir de cette opposition entre deux catégories. Bon, alors évidemment, la question qui se pose, c'est qui sont les Amé à Aretz ? Donc littéralement les peuples de la terre. Alors, la définition traditionnelle du Am au singulier Am Aretz, c'est l'ignorant. Voilà. Qui est Am Aretz, qui rentre dans cette catégorie? C'est l'ignorant, celui qui ne sait rien. Celui qui ne sait rien, celui qui connaît rien à la Torah. Bon, soit, ça c'est la définition classique. Il faut savoir que lorsqu'on étudie la Torah et le Talmud, traditionnellement, on étudie par pair, on étudie à deux. Donc c'est pour ça que la question se pose. On doit se poser la question, dès lors qu'on veut étudier, avec qui on peut étudier. Donc, on étudie en chavruta, donc en pair, en amitié, avec un chéver, c'est-à-dire un compagnon d'étude. Bon. Et donc, les Améa Aretz, ceux-là, sont disqualifiés en tant que compagnons d'étude. Bon, très bien. Alors, jusque-là, tout paraît clair, sauf que on peut se demander pourquoi exclure les ignorants de l'étude. S'il y a une catégorie de personnes dont on aurait pu penser qu'elles étaient qualifiées pour rentrer dans la catégorie, pour rentrer dans le monde de l'étude, c'est bien les ignorants, c'est bien ceux qui ont besoin d'apprendre. Alors pourquoi disqualifier les ignorants? Bon. Alors, certains commentateurs se posent la question et ils disent, bon, en général, dans le Talmud, la notion de Hama Aretz renvoie à un ignorant, mais pas ici, c'est pas possible, ça n'aurait aucun sens. Donc forcément, la notion ici, dans ce traité Pessahim, doit vouloir dire autre chose. Alors, ces commentateurs essayent de comprendre un petit peu de quoi ils retournent. Alors, au prix d'un jeu de mots, on pourrait peut-être dire la chose suivante. On pourrait dire, peuple de la terre, ce qui compte, c'est la terre, c'est l'idée que ces gens sont incultes. Ils ne cultivent pas la terre, ils ne se cultivent pas. Bon. Alors, ne pas se cultiver, ça peut vouloir dire deux choses. Et les commentateurs divergent à ce propos. Certains disent, ce sont des gens qui se rebellent contre les commandements. Ce sont des gens qui ne veulent pas appliquer les commandements. Donc, ils seraient incultes, non pas parce qu'ils ne se cultivent pas, ils seraient ignorants, mais ils seraient incultes au sens où ils refusent le culte, la religion. Il faudrait comprendre comme ça. Alors, étant donné qu'ils ne veulent pas entendre parler des commandements, eh bien, on ne peut pas étudier avec eux. Alors, ça nous renseigne déjà, ça répond en partie à la question de la méthode talmudique. Pourquoi est-ce qu'on étudie? Ben, on étudie parce qu'il est question aussi de mieux comprendre comment accomplir la loi. Ça n'est pas juste un divertissement, un sport intellectuel, l'étude, c'est pour savoir comment appliquer la loi. Le judaïsme n'est pas une orthodoxie, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à penser, en principe. Ça ne fonctionne malheureusement pas toujours comme ça. Le judaïsme est une orthopraxie, on est censé pratiquer de telle ou telle manière. Bon, et donc pour savoir comment pratiquer, ben, il faut étudier. D'autres commentateurs disent, bon, en fait, les Améa Aret, ce sont des gens, pas forcément rebelles, ce sont des gens qui pratiquent, mais de façon un peu lâche, pas très rigoureuse, ce sont des gens à qui on ne peut pas forcément faire confiance. Bon, alors, pour comprendre cette définition-là, il faut se rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, que le judaïsme rabbinique est issu du courant des pharisiens. Alors, qui sont les pharisiens? En hébreu, les Perushim. C'est ceux qui se mettent à l'écart. Il y a l'idée de séparation. C'est ceux qui veulent respecter les lois de pureté rituelle. Or, quelqu'un qui serait un Am Aretz, si c'est quelqu'un qui ne respecte pas scrupuleusement les commandements, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. On ne sait pas, quand on est avec lui, s'il est en état de pureté rituelle ou pas. Et par conséquent, on ne peut pas se mettre sur un pied d'égalité avec lui, on n'a pas vraiment le même statut que lui. On ne peut pas rentrer en compagnonnage avec lui, ça n'est pas vraiment un révère. C'est quelqu'un peut-être de respectable, mais on ne peut pas entamer en fait une étude avec lui. Donc ça, c'est une réponse possible. Mais il y a pire que ça. Sur ce folio-là, un petit peu avant, donc toujours 49B, mais un petit peu plus haut dans la colonne, on a d'autres interdictions qui sont formulées vis-à-vis des Améa Aretz. Ça n'est pas seulement qu'on ne peut pas étudier avec eux, c'est aussi que, par exemple, si on a une fille, à Dieu ne plaise, il faut mieux avoir des garçons, on le sait, mais si on a une fille, on ne peut pas la marier avec un Am Aretz. L'idéal, c'est de la marier avec un Talmid Chacham, avec un étudiant du Talmud. Ça, c'est vraiment l'idéal, c'est ce qu'on doit rechercher. Et certains rabbins disent, on ne peut pas les marier avec les Am Aretz. Pourquoi? Parce que Mipnei She'en Sheketz Ve'Sheretz. Sheretz. Ces gens-là, c'est de la vermine. C'est pas des hommes, ces gens-là. C'est de la vermine. C'est même pas des êtres humains. Alors, bienvenue dans l'univers du Talmud, l'univers impitoyable. On a peut-être d'ailleurs entre les lignes une deuxième réponse possible. Pourquoi est-ce qu'on étudie le Talmud? Parce qu'on veut échapper au politiquement correct. Il y a un nombre incalculable de passages talmudiques qui sont d'une rare violence. Donc, quand on rentre dans l'étude du Talmud, il faut être prêt à être choqué. Bon, voilà, je lis ça comme vous, ça me heurte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Autant je peux comprendre qu'on dise que Amaretz c'est un inculte. Il n'est pas assez cultivé. On ne peut pas étudier avec lui, il n'en sait pas assez. Ok. Oui, il n'est pas assez tatillon, il n'est pas assez précautionneux dans l'application des commandements. Je peux comprendre ça. Mais qu'on dise que c'est un chéretz, que c'est de la vermine, là on change de catégorie, là. C'est plus une interdiction, c'est carrément une imprécation. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Bon, voilà. Alors quand on étudie le Talmud, ben, il faut s'affronter à ce genre de scandale, quoi. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Alors il n'y a pas 36 solutions, hein. Il y en a deux. Soit je ferme le livre. Et je dis, c'est n'importe quoi, on arrête ça, on est au 21e siècle, on passe à autre chose. Soit je ferme le livre pour ouvrir d'autres volumes qui me permettront peut-être de comprendre ce qui se raconte là. Alors évidemment, ce qu'on va essayer de faire, c'est poursuivre cette deuxième logique. Je pense que ça veut dire quelque chose de fondamental. Je pense que si les rédacteurs du Talmud ont laissé passer une chose aussi énorme, c'est justement pour provoquer, mais pas pour le plaisir de provoquer, mais pour provoquer à la pensée, quoi. Pour pousser la pensée dans ses derniers retranchements, quoi. Voilà. Parce que ça s'appelle penser. Penser, c'est ça, c'est penser dans ses derniers retranchements, c'est pas juste s'amuser, quoi. Penser vaguement ou en gros, non. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et donc, ça s'appelle la méthode du pile-poule. Qu'est-ce que c'est que le pile-poule? Pile-poule, ça consiste en quoi? Ça consiste à, quand on a un problème, souvent c'est quand on a deux interprétations contradictoires de deux versets différents, on cherche un troisième verset pour résoudre la contradiction. C'est ça le pile-poule, fondamentalement. Donc on va se livrer à cette sorte de pile-poule. Et on va se demander. Qu'est-ce que c'est que Sheretz? D'où ça vient cette catégorie? Pourquoi est-ce que c'est cette insulte? Parce que c'est une insulte. Bon. Pourquoi est-ce que c'est cette insulte qui a été choisie et pas une autre? On aurait pu. Il y en a plein des insultes a priori. Pourquoi est-ce qu'on les qualifie de Sheretz et pas d'autre chose? Peut-être qu'il se joue là quelque chose d'important. Alors, on va se poser une question. C'est comme ça que le Talmud le dirait en araméen. Le Talmud est écrit pour la Mishnah en hébreu et pour la Gemara dans un mélange d'hébreu et d'araméen. Alors, la question qu'on se poserait ici en araméen, c'est Sheretz Menalan. Ça vient d'où ce Sheretz? Pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot Sheretz? Il le sait d'où que ça existe et qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Alors, on va se poser la question Sheretz Menalan. Alors, Sheretz Menalan, c'est pas très compliqué. Une fois que ces volumes seront passés là, vous aurez fini. Alors, il faut aller voir dans le traité Eruvin. Donc, vous l'avez, c'est le grand C. C'est le grand C, savoir et non savoir, le cas du Chéretz. Traité Eruvin. Alors, bon, j'ai pas eu beaucoup de mérite pour trouver l'allusion au Chéretz. Le traité Eruvin, folio 13b, c'est l'une des pages les plus connues du Talmud. Bon, qu'est-ce qu'on apprend traité Eruvin 13b. Alors, c'est une page où les rabbins qui discutent essayent de comprendre quelle est la logique générale qui permet de fixer la loi. Comment fixe-t-on la loi? Comment est-ce qu'on choisit que tel rabbin a raison, que tel autre a tort? En vertu de quels critères? Alors, on nous dit, Rabbi Meir, il n'est jamais à l'origine de la loi. Donc Rabbi Meir est un des rabbins du Talmud. Et on ne suit jamais l'opinion de Rabbi Meir. Soit, pourquoi pas? La question évidente, c'est pourquoi? Et on nous dit, on ne fixe pas la halakha, donc la loi, selon l'opinion de Rabbi Meir, parce qu'on n'arrive pas à sonder la profondeur de ses raisonnements. On n'arrive pas à sonder profondeur de ses raisonnements. Réponse assez paradoxale. On s'attendrait à ce qu'on nous dise, ben, Rabbi Meir, le pauvre, il est bien gentil, mais pas très futé. Et les raisons qu'il nous donne, elles sont pas terribles. Donc on ne peut pas le suivre, il a toujours tout faux, Rabbi Meir. Non. La raison pour laquelle on ne le suit pas, c'est parce qu'il en sait trop. Il est tellement intelligent, tellement pointu dans ses raisonnements, qu'on est incapable de savoir s'il a raison ou tort. C'est embêtant pour fixer la loi. Donc on ne suit jamais Rabbi Meir. Et on nous dit explicitement, parce que il est capable, quand se pose la question de savoir si tel objet est pur ou impur, encore les lois rituelles, lorsqu'on se pose la question pour savoir si tel objet est pur ou impur, il est capable de démontrer que l'objet est pur, et ensuite il est capable de démontrer qu'il est impur. Et donc, on ne peut pas suivre ses conclusions, parce qu'on ne sait pas si elles sont fondées ou pas, on ne comprend pas. Bon, ça c'est le premier point. Un peu plus bas, dans la même page, toujours 13b, on nous dit, il était une fois un étudiant très consciencieux qui, par ses raisonnements, était capable de prouver que le chéretz est un animal pur. Ah, ben voilà le chéretz. Il réapparaît sur cette page-là. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que chéretz? Ça renvoie à des animaux rampants, c'est dans Lévitique 11, à partir du verset 29. Donc Lévitique 11, 29. Il y a 8 catégories d'animaux, genre vers de terre, etc., chenilles et autres, qui rentrent dans la catégorie de chéretz. Et donc, selon la loi juive, selon la halakha, il est absolument évident que ces bestioles-là sont impures. La preuve, quand on trie de la salade, il faut y aller avec une lampe électrique, etc. Ou il faut une planche avec transparente, avec une lampe en dessous, pour bien voir par transparence s'il n'y aurait pas un moustique ou quelque chose qui se cacherait dans une feuille, sinon on mangerait une bestiole impure, ce qui jusqu'à aujourd'hui est interdit. Bon. Donc il est évident que le chéretz, c'est un animal impur. Eh bien, cet étudiant-là, la Gemara nous dit, il était capable de donner 150 raisons. Il était capable de produire 150 raisonnements différents et tous convaincants pour dire que chéretz, c'est tahor, c'est pur, c'est pas tamé, c'est pas impur. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça vient faire? En quoi ça nous éclaire notre premier problème? Le premier problème, c'est de comprendre pourquoi un amaretz, on peut le qualifier de chéretz. Bon, la première approximation, c'était de dire, ben, le amaretz, c'est l'ignorant. Et là, on aboutit à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce qu'on s'aperçoit que le chéretz, donc le amaretz qui est chéretz, c'est pas lui l'ignorant. Le chéretz, c'est plus une catégorie sociologique. Qui est chéretz? Qui sont les gens qui rentrent dans cette catégorie sociale? C'est pas ça. Ici, c'est une catégorie épistémologique. C'est-à-dire que le chéretz, c'est la catégorie qui va révéler l'inculture, l'ignorance de ceux qu'on croyait savants. Celui qui étudie le Talmud, il sait que chéretz, c'est pas cachère, que c'est impur. Eh bien, chéretz, ça va démontrer qu'il n'y comprend rien parce qu'il y a 150 raisons qui pourraient pousser à dire que c'est pur. C'est pour ça qu'on condamne le chéretz. Pas parce qu'il est ignorant, mais c'est parce que c'est terriblement angoissant, un chéretz. Ça vous renvoie à votre propre ignorance. C'est terrifiant, ça. Vous croyez savoir et vous apercevez que vous ne savez pas. Et donc, non, il ne faut surtout pas étudier la Torah avec un chéretz. Donc avec un amaretz, qui est un chéretz. Donc en gros, on se retrouve avec quoi? Un paradoxe, qui est que Il y a deux catégories de personnes, deux catégories de personnes, et pas une comme on croyait au départ. Il y a deux catégories de personnes qui sont exclues de l'étude. Le Sheretz, le Hamaaretz, parce qu'il est ignorant, il ne comprend rien, il ne sait rien. Et le sage parfait, Rabbi Meir. On renvoie dos à dos dans la même catégorie, c'est-à-dire dans la même exclusion, le sage parfait, Rabbi Meir. Pourquoi il s'appelle Meir? C'était pas son vrai nom, Rabbi Meir. C'est parce qu'il était Meoragola. C'était la lumière de l'exil. C'était la lumière de sa génération. C'était le luminaire de sa génération. Meir, c'est la lumière. C'est celui qui donne la lumière. Bon. Mais il a tellement de lumière à donner qu'il en devient aveuglant. Donc il faut s'en protéger. Et le Hamaaretz, qui est Sheretz, lui, c'est le contraire, c'est l'obscurité totale, il sait rien. C'est le noir absolu, c'est l'obscurité, obscurantisme, c'est pas trop, c'est pareil. Donc on renvoie dos à dos le savant parfait et le Hamaaretz, l'ignorant. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste la catégorie intermédiaire, le Talmid Chacham. Donc avec qui étudier? Qui étudie? Celui qui se range dans la catégorie de Talmid Chacham. Qu'est-ce que c'est que Talmid Chacham? C'est celui qui étudie le Talmud. Mais en fait, il faut comprendre ça différemment. C'est l'éternel étudiant. Le Talmid Chacham, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas tout. C'est pour ça qu'il continue à étudier. Le sage parfait, pourquoi il continue à étudier? C'est tout. Il arrête. Donc il est figé dans une catégorie. L'ignorant, il ne sait rien. Il n'en sortira jamais de sa crasse intellectuelle. Donc il est figé dans une catégorie. Le seul qui puisse bouger, c'est celui qui sait qu'il appartient à ces deux catégories et qu'il est toujours en train de faire la navette entre les deux. C'est ça. C'est ça. Donc, l'étude avec qui? Avec un Talmid Chacham. Il n'y a la seule condition à remplir pour étudier, c'est de savoir que l'on ne sait pas. À partir de là, tout est possible. Alors, c'est la réponse que retient la loi juive. Hein. Maïmonide, bon, grand décisionnaire du XIIe siècle, Maïmonide, dans son Mishneh Torah, qui est la répétition de la loi, où il va faire la liste de tous les commandements, bah, il va dire quelque chose de très simple. Il va dire, un juif est astreint au commandement de l'étude du jour de sa naissance au jour de sa mort. Tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que si on est Talmid Chacham, si on sait qu'on ne sait pas, ben on est toujours, tous les jours, en train d'avancer. En train d'en apprendre un peu, puis d'en oublier un peu aussi. Donc d'un côté on avance, d'un côté on recule, donc ben, il faut continuer, il faut toujours être en marche, en mouvement, quoi. Et donc on pourrait, cette analyse finalement croise l'analyse qu'on peut trouver dans un livre d'Alexandre Kojève. Alexandre Kojève, c'est un philosophe qui était spécialiste de Hegel. Et dans un livre qui s'appelle « Introduction à la pensée de Hegel », il dit la chose suivante, alors je cite, c'est tiré de la page 271, c'est chez Gallimard et ça a été publié en 1947, « Le sage est capable de répondre de manière compréhensible, voire satisfaisante, à toutes les questions. » Ça, c'est pas la définition talmudique du sage. Parce que le sage qui est capable de répondre à toutes les questions de façon satisfaisante, ça n'existe pas dans le Talmud. Hein. Enfin, si ça existe, c'est Rabbi Meir et on lui dit, ben désolé, on ne te suivra pas, quoi. Voilà. T'es peut-être satisfaisant, mais t'es pas compréhensible. Et donc, souvent dans le Talmud, dans les controverses comme ça, les Talmidei Chachamim, donc, pour les appeler comme ça, invente des cas particuliers pour mieux comprendre la loi, et s'il se passait ça, alors qu'est-ce qu'on dirait, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on conclurait, etc. Et très souvent, ça aboutit à une impasse. Qu'est-ce qu'on conclut? Ah, le mot en araméen, c'est teikou. Teikou, ça veut dire que la question reste en suspens. On n'en sait rien. On n'en sait rien, on ne sait pas. Alors, parfois, et c'est assez, sur le coup, c'est assez frustrant, on traverse une, deux, trois, parfois cinq, six, sept, dix pages de Talmud, c'est-à-dire plusieurs jours, hein. On fait une page par jour hein, dans l'étude du Talmud. Hein. Il faut 7 ans et demi pour traverser le Talmud en entier. 7 ans et demi pour étudier le Talmud dans son entier. Quoi. Bon, donc 10 pages, ça fait quand même 10 jours. Hein. Donc on traverse tout ça. Conclusion, Taiko. On ne sait pas. Eh bien, merci d'avoir joué avec nous. Voilà. Mais c'est parce qu'on doit absolument s'inscrire dans cette catégorie de Talmid Chacham, d'éternel étudiant. Façon de répondre à la question, l'étude avec qui? Donc voilà pour la méthode. Et dans le traité Shabbat, au folio 127a, on a un adage qui va résumer cette idée-là. Le Talmud, dans cette page-là, Shabbat 127a, va donner quelques commandements qui sont absolument essentiels, qu'il faut absolument suivre. Et il va dire Talmud Torah keneged kulam. Mais l'étude de la Torah les surpasse tous. Donc on a dans le judaïsme 613 commandements. Sur les 613 commandements, il y en a un qui dit tu étudieras la Torah tous les jours de ta vie, matin et soir. Eh bien, ce commandement-là pèse autant que les 612 autres commandements, si on les met dans la balance. Ça pèse autant. Alors, ça c'est pour... Qu'est-ce que l'étude? Donc l'étude, c'est disons, la vertu cardinale, la valeur cardinale. Très bien. La question qui se pose évidemment, et c'est le deuxième point, et c'est sans doute pour une partie d'entre vous le plus important, à quoi ça sert tout ça? L'étude pour quoi ou pour qui? On va étudier tous les jours. Et finalement, ça débouche sur quoi? Alors, le traité Kiddushin, qui est un traité de droit civil, en fait de droit matrimonial, à la page 40b, va essayer de démêler les priorités. On a dit tout à l'heure que le judaïsme était une orthopraxie, donc il s'agissait de pratiquer. On a assez reproché au Hamé à Haaretz de ne pas se soumettre au commandement. Bon, donc on a bien compris qu'il fallait se soumettre au commandement. Donc il faut étudier, mais aussi pratiquer. Il faut que l'étude débouche sur la pratique. D'où évidemment la question qui va se poser, à quoi doit-on donner la priorité, à l'étude ou à la pratique? Et c'est la question que pose la Gemara dans le traité Kiddushin, donc 40b. Donc, un rabbin, Rabbi Tarfon, il dit Talmud Gadol. C'est l'étude qui est la plus importante. Il dit non, Maaseh Gadol. C'est l'acte. Ce sont les actions, c'est la pratique qui est plus importante. C'est la pratique. Très bien, soit. Se lève Rabbi Akiva. Immense rabbin Talmud. Et Rabbi Akiva dit l'homme assez gadol. Non, non, c'est pas la pratique qui compte. C'est Talmud gadol. C'est l'étude qui est plus grande. C'est l'étude. Soit. Et les autres rabbins se lèvent et disent en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'étude qui est la plus importante parce qu'elle mène à la pratique. C'est comme ça, alors, très rapidement, hein, c'est vraiment expédié. Pour une question aussi centrale, la réponse est absolument expéditive, quoi. La question est tranchée. C'est l'étude qui prime parce que l'étude mène à la pratique. Donc c'est l'étude qui est prioritaire. Voilà. Là, on se rend bien compte que ce raisonnement n'a que l'apparence de la logique, hein. Il y a un énorme paradoxe. C'est-à-dire que si c'est l'étude qui est première, qui est prioritaire, parce qu'elle mène à la pratique, c'est donc qu'on veut dire que c'est la pratique qui est prioritaire.
L'objectif.
D'accord?
C'est l'objectif.
Forcément. Donc là, il y a un problème de logique, là. Et si on dit que l'étude est prioritaire, on a l'air de dire ce que Rabbi Akiva disait, mais que si on dit que si la pratique, l'étude est prioritaire parce que ça mène à la pratique, Et que donc en réalité, on est en train de dire que c'est la pratique qui est prioritaire, on a l'air de dire ce que Rabbi Tarfon disait. Or, il y a une règle d'or dans le Talmud, c'est que jamais une opinion n'est redondante par rapport à une opinion qui précède. Une opinion doit toujours amener quelque chose de neuf. Alors on se demande bien ce que ça amène quelque chose, ce que ça amène de neuf ici. Eh bien, c'est très simple, c'est que ce qui est prioritaire, c'est évidemment à la fois l'étude et la pratique. La question est très intéressante, cette question de priorité, mais elle ne peut pas recevoir de réponse. On ne peut pas trancher entre la priorité donnée à l'étude et la priorité donnée à la pratique. C'est pas possible. C'est pour ça que on a cette espèce de réponse sous forme paradoxale. Donc, c'est les deux à la fois. Ça tombe bien, on a deux mains, il faut tenir dans une main l'étude et dans l'autre la pratique. On peut trancher comme ça. Ça, c'est le traité Kiddushin 40p dans le traité dans le Talmud de Babylone. Alors, je lui ai dit qu'on dirait un mot du Talmud de Jérusalem, mais ben, c'est le moment. Parce que dans la Mishnah PA, donc ça c'est dans le traité de Jérusalem, Talmud de Jérusalem, traité PA, premier chapitre, première Mishnah, on nous propose là encore une liste de commandements à accomplir. Dont on nous dit, Elo devarim she'en la'em shi'ur, voici les choses, voici les commandements, donc, qui ne connaissent pas de mesure, qui n'ont pas de limite, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer sans limite. Il y en a cinq. Premier commandement, APA, le coin. Donc, le coin. Bien, j'expliquerai après. Deuxième, Ve'abikurim, les prémices. À l'époque où le temple était encore existant en Jérusalem, il fallait amener les prémices des arbres fruitiers, par exemple, ou des animaux, pour les offrir au temple. Les premiers fruits, les premiers animaux n'appartenaient pas à leur propriétaire, il fallait les offrir au temple. Donc, ça c'est le deuxième point. Troisième, c'est un mot un peu, bon, c'est pas le mot le plus courant pour désigner la chose, mais enfin, areayon, c'est-à-dire le pèlerinage. Littéralement, areayon, c'est la présence au temple. Donc, il faut 3 fois l'an, pour les fêtes de pèlerinage, monter au temple à Jérusalem. Très bien pour nous, c'est réglé, il n'y a plus de temple. Quatrième point, Gemilut Hasadim, les bonnes actions. Voilà, les BA, quoi. Il faut faire sa BA. Bon, très bien. Et cinquième, Talmud Torah, l'étude de la Torah. Donc, les cinq commandements qui ne connaissent absolument aucune limite, qu'on peut consommer sans modération, c'est ces cinq-là. Alors, à Bikurim, ça nous intéresse guère parce que le temple n'existe plus. À Réaïon, le pèlerinage, ça nous intéresse guère parce que le temple n'existe plus. Gemilut Hasadim, c'est un concept assez vague. Si on étudiait ça maintenant, on s'y perdrait. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est essayer de comprendre quel est le lien entre le premier et le dernier commandement. Le coin, PA, le coin, un coin, un angle, un coin, un coin, COIN. Quel rapport entre la mitzvah, le commandement du coin, et l'étude de la Torah? Qu'est-ce que c'est qu'un coin, en d'autres termes? Vous voyez, ça c'est un classique aussi en études talmudiques. Je lis ce texte et comme vous, je ne le comprends pas, je n'y comprends rien. Le coin, qu'est-ce que c'est un coin? Et donc on est obligé de poser la question qu'on a posée tout à l'heure à propos du Sheretz. On avait dit Sheretz Menalan, ça sort d'où ce Sheretz? Eh bien on va poser la question Pea Menalan, ça sort d'où ce coin? Ça vient d'où? Ah ben alors ça vient pour la Torah écrite. Pour la Bible, ça vient du Lévitique. Lévitique chapitre 19 et versets 9-10. Bon. Mais comme dans le judaïsme, on ne lit jamais la Torah écrite sans la Torah orale, on va essayer de trouver une source talmudique où il est question de ce coin. Alors, la source talmudique, ben, c'est précisément la photocopie que je vous ai faite, c'est dans le traité Bava Metzia. Qui fait partie de l'ordre Nézikin, des dommages, donc qui est un traité talmudique qui parle en fait des questions de droit civil. Droit civil, et La question qui se pose, c'est comment peut-on devenir légitime propriétaire des objets? Voilà. Qu'est-ce que c'est que la propriété, en gros? Ça, c'est la question générale qui parcourt le traité. Qu'est-ce que c'est que la propriété? Bon. Donc, Kinyan, c'est l'acquisition. Vous savez, Caïn et Abel, Caïn, j'ai acquis un homme avec Dieu. Et donc, il s'appelle Caïn. Parce que c'est l'acquisition, c'est celui qui a été acquis. C'est la chose acquise. Bon, étymologiquement, c'est ça. Alors, on va se pencher un peu sur ce texte du traité Bava Metzia. Et donc, c'est le folio 9b. Alors, la Mishnah dit la chose suivante. Si quelqu'un chevauche un animal, donc vous imaginez la scène, il y a toujours une espèce de dramaturgie comme ça dans la Mishnah pour présenter les cas un peu abstraits. Donc un type arrive chevauchant son cheval. Bien. Vera est à Metzia, et puis il voit une trouvaille. Donc il tombe par hasard sur un objet, quoi. Il chevauche et puis il voit, ah ben tiens, voilà, tiens, quelqu'un a fait tomber un chapeau. Il y a un chapeau par terre. Bien. Arrive un piéton. Le cavalier dit au piéton, tu peux me ramasser le chapeau, s'il te plaît, tu me le donnes, parce que ça m'évite de descendre de cheval, c'est plus pratique, etc. On va gagner du temps. Okay. Le piéton prend le chapeau, donne le chapeau au cavalier. Conclusion, Zaha va, il a acquis le chapeau. Cavalier. Très bien. Maintenant, imagine un autre cas de figure. Le cavalier arrive, il voit le chapeau, le piéton arrive. Le cavalier dit, tiens, piéton, tu peux me ramasser le chapeau, tu me le donnes, s'il te plaît. Le piéton s'exécute. Et puis, il le garde. Il le garde en main. La question se pose, à qui est le chapeau? Qui va porter le chapeau dans l'histoire? Est-ce que c'est le cavalier qui est légitime propriétaire parce qu'il a vu, il a fait la trouvaille à Metzia, c'est lui qui a vu. Et puis il lui a dit, au piéton, il a dit, c'est pour moi que tu vas le ramasser ce chapeau. Et bien dans ce cas-là, la Mishnah dit, lo amar klum, c'est comme s'il avait rien dit. Et le chapeau est au piéton. Pourquoi? Parce que le mode d'acquisition fondamental, c'est la agba'a. Un mot qu'on continue d'utiliser dans les synagogues aujourd'hui, quand on fait là, on lève les rouleaux de la Torah, agba'a, on soulève. Le soulèvement est un mode d'acquisition. Donc le piéton, ben, il a soulevé le chapeau, ben, le chapeau est à lui. Le cavalier n'avait qu'à descendre de sa monture et ramasser son chapeau lui-même. Lo amar klum, il n'a rien dit, c'est comme s'il n'avait rien dit. Il n'a rien gagné, en plus il a dépensé de la salive pour rien. Bon. Voilà Mishnah, Bava Metzia, 9b. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le coin? Ben dans la Mishnah, aucun rapport. Hein. Aucun. Par contre, la question sous-jacente de cette affaire, qu'est-ce que c'est? La question sous-jacente, c'est de savoir si on peut acquérir un objet pour quelqu'un d'autre. C'est ça en fait. Si la propriété se transfère, si on peut donner procuration, pour le dire en termes modernes. Est-ce qu'on peut donner la procuration? Est-ce que la procuration est un mode valable d'acquisition d'objets? Bon, ça c'est la controverse en fait. Et bien le cas de base sur lequel on va avoir, pour statuer sur la question du chapeau, il faut faire un parallèle avec un cas qu'on va penser essentiel, paradigmatique. Le cas paradigmatique, c'est le coin. C'est ce que dit la Gemara après. C'est comme ça que la Gemara commence. Elle est comme nous, la Gemara. Ça commence toujours comme ça. Quand la Gemara suit la Mishnah, la Gemara commence toujours en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette Mishnah? On n'y comprend rien. Mais qu'est-ce qu'ils disent là ?» Bon, alors, comme on n'y comprend rien, il faut qu'on essaye de trouver un cas qui soit un peu moins obscur, sur lequel on va réfléchir posément. Une fois qu'on aura compris le cas de base, on pourra faire le parallèle avec le cas un peu plus compliqué. Or, le cas de base, eh bien, c'est celui dont parle le Lévitique. C'est celui qui apparaît dans le Talmud de Jérusalem, Mishnah Pea, et c'est celui dont parle Agmara ici. Celui qui a glané de la Pea. Alors, celui qui a glané de la Pea. Donc, celui qui a glané dans le coin. Le coin désigne le coin du champ. Le coin désigne le coin du champ. Lorsqu'un propriétaire possède un champ, le blé a poussé, il décide de moissonner. Eh bien, il devra laisser un coin du champ non moissonné pour que les pauvres puissent venir ramasser les glanures. C'est ça la PA. D'accord ?
Un seul
coin, PA, singulier. Donc un seul coin. Et donc, la question qui se pose, c'est, par rapport au coup du chapeau, si j'ose dire, est-ce que le propriétaire du champ peut transférer, peut donner procuration pour l'acquisition du coin ? Est-ce que le propriétaire peut dire, bon, je vais glaner mon coin et je le donne à tel pauvre ? Le coin est réservé pour les pauvres. Donc, le propriétaire, qui est quand même propriétaire, va ramasser le blé qui est dans ce coin et il va dire, ben voilà, je le donne à ce pauvre. Et la Gemara dit, lo amar klum. C'est comme s'il n'avait rien dit. Il n'a pas le droit de choisir son pauvre. Et c'est peut-être pour ça que dans la Mishnah, parce que chaque mot compte, la Mishnah disait bien, Vera'a et Ametsia. Il a vu la trouvaille, donc il a trouvé par hasard. Donc il faut que ce soit un pauvre par hasard, pas un pauvre sélectionné, sur je ne sais quel critère. Bon. Donc si le propriétaire ramasse, moissonne son blé sur la PA et le donne à tel pauvre, ça ne marche pas. Il ne s'est pas acquitté de son devoir de laisser la glanure au pauvre. Alors, quel rapport ? Parce que ça, l'autre enjeu talmudique, c'est ça. C'est quand on étudie des textes qui apparemment n'ont aucun rapport entre eux, le petit jeu, c'est de trouver des rapports. Quel rapport avec le Sheretz, le Ama Aretz et tout ça ? Ben, il me semble qu'il y a un parallélisme là de structure. C'est-à-dire qu'on avait tout à l'heure le Ama Aretz. D'accord ? Le Ama Aretz, c'est l'ignorant. Il sait rien. Et là, on a Ani, le pauvre. Le pauvre, il n'a rien. Donc, d'un côté, on a Ama Aretz. De l'autre côté, on a Ani, le pauvre. OK ? Bien. Ensuite, on a le propriétaire. Le propriétaire, il a son champ. Il a tout. Ça, c'est le Chacham, c'est le sage, c'est Rabbi Meir. Il sait tout. Et on a la catégorie intermédiaire. Et c'est ça que reconnaît la loi juive. Il faut être dans le domaine de l'étude, Tamid Chacham, à la fois savant et à la fois ignorant. Et dans le domaine de la pratique, en ce qui concerne la loi de PA, du coin, il faut être à la fois propriétaire et pauvre. Oui, il est propriétaire, mais pas du coin. Le quatrième coin ne lui appartient pas. Vis-à-vis de ce coin, il est pauvre. Donc on a la même structure en réalité. C'est la même chose. C'est pareil. Donc, d'un côté, dans l'étude, il ne faut pas se croire omniscient. Et lorsqu'il s'agit de se conformer à la mitzvah de PA, du coin, il faut bien comprendre qu'on n'est pas propriétaire de tout. On est propriétaire de tout TOU, mais pas de tout TOUT. Les quatre lettres, il y a quatre coins. D'accord ? C'est ça. Bon. Alors pourquoi ? Parce que, plus profondément encore, ou de notre point de vue, les deux logiques n'en font qu'une. C'est une façon d'éduquer les gens, que ce soit les étudiants du Talmud, que ce soit les propriétaires terriens, de leur dire, vous devez renoncer à une part. Il y a une part, chelek, qui n'est pas pour vous. Ça s'appelle renoncer à l'idolâtrie. La plupart des commentateurs, le Maharal de Prague, 16e siècle en tête, rappellent très opportunément que l'idolâtrie, c'est se croire propriétaire de tout. Et qu'on doit renoncer à un chélek, à une part, à une certaine partie de son être, de son avoir, peu importe. Il y a une part, une partie, à laquelle on doit absolument renoncer. Et c'est peut-être le moment de rappeler que les controverses talmudiques entre les sages, ça s'appelle machloket. Machloket, c'est formé du mot chelek, la part, et du mot met, la mort. Il faut qu'il y ait une part qui meure. C'est ça la controverse talmudique. Il faut qu'il y ait une part dans chacun qui meurt. Chelek, met. Et donc, il s'agit en réalité, si on creuse un petit peu, tout simplement, si j'ose dire, de renoncer à l'idolâtrie. Ça, c'est une première compréhension de PA, en parallèle à l'étude, par rapport au traité Bava Metzia. Alors, je proposerai une deuxième tentative de compréhension. C'est bon signe. Hein. Deuxième tentative de compréhension qui est tirée alors, d'un traité... du traité Makot. Alors Makot, c'est les coups. Donc c'est un traité juridique qui essaye d'établir les conditions dans lesquelles on peut condamner quelqu'un à la peine de flagellation. Makot, Malkout, la flagellation. D'accord. Alors dans ce traité, il y a une Mishnah, folio 20A. Qui dit la chose suivante. On est passible de la peine de flagellation, de malkout, si on arrondit le coin de sa tête. Peat roche. Si on arrondit le coin de sa tête, on est passible de flagellation. Et de même, si on détruit le coin de sa barbe. Peat zakano. Donc les coins sont là aussi. Donc une autre compréhension de PA peut se tirer du traité Makot. Alors, on ne doit pas donc arrondir les coins de la tête. Qu'est-ce que c'est que les coins de la tête? Si on avait la tête carrée ou rectangulaire, ce serait relativement facile d'en trouver le coin. Mais étant donné la forme un peu ovale du visage, on se demande bien où est le coin. Alors la Gemara explique... Le coin, c'est la partie qui se situe de la chevelure qui se situe ici, sur la tempe, juste au-dessus de la tempe. Ça, PA. Et c'est pour ça que les juifs traditionnalistes se font pousser les coins, les péotes, ce qu'on appelle vulgairement en français ce qui ne veut rien dire, les papillotes. D'accord ?
Péotes.
D'accord ? Donc pourquoi se font-ils pousser les cheveux ici ? Enfin, pourquoi ne coupent-ils pas les cheveux ici ? C'est parce que la Mishnah traité Makot 20a dit il ne faut pas arrondir les péotes de la tête. C'est la halakha. D'accord ? Alors, pourquoi cette partie-là ? Qu'est-ce que c'est que le coin ? Bon, on va essayer de poursuivre... La lecture de la Mishnah par rapport à la barbe aussi. Donc on n'arrondit pas les coins de la tête, on ne coupe pas, on ne détruit pas les coins de la barbe. Alors, dans la Gemara, un petit peu plus loin, ça doit être 21... Si mes souvenirs sont bons... 21A, folio 21A, c'est Rav Shechet qui essaye d'expliquer où se trouvent les côtés de les coins de la barbe. Donc il montre à ses étudiants, ben voilà, c'est là ou c'est là. Et ça, on ne doit pas y toucher. Sauf que, et d'ailleurs, c'est une question que vous auriez pu me poser, où sont mes péotes? Et où est ma barbe? Est-ce que je contreviens à la halakha en ne portant pas de péote ni de barbe? J'ai manifestement arrondi les coins de ma tête et j'ai manifestement détruit les coins de ma barbe. Alors, est-ce que c'est cachère ou pas? Eh bien, beaucoup de commentateurs se demandent bien où se situent les péotes de la barbe. Parce que dans la Gemara, je vous l'ai dit, Rav Sheshet, il montre à ses étudiants où ça se trouve. Il dit, la Gemara dit, voilà, Rav Sheshet a montré, a indiqué du doigt les péotes de la barbe. Mais nous, on n'y voit rien. Peut-être que les étudiants, ils voyaient bien le geste, mais nous, on ne voit pas le geste. Et les commentateurs, de dire, mais on n'en sait pas plus, quoi. Et donc, ah, tiens, on n'en sait pas plus. On retrouve la logique, là, du Sheretz. Qu'est-ce que c'est que la PA de la barbe? Et les commentateurs, ils disent, eh ben, on n'en sait rien. On ne sait pas. On ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc, le parallèle, il est toujours valable. Sheretz, c'est celui qui met le soi-disant savant en face de son ignorance. Le PA, la PA du champ, c'est celui qui met le soi-disant propriétaire en face de son dénuement. Et le péot, la PA du coin de la tête ou de la barbe, c'est de nouveau ce qui échappe au savoir. On ne sait pas où c'est ni ce que c'est. Et c'est pour ça que les juifs non traditionnalistes ne portent pas de péote et détruisent le coin de la barbe, parce que de toute façon on est bien incapable de savoir ce que c'est. Et donc à proprement parler, l'interdit ne porte pas, puisqu'on ne, on, il n'y a pas d'objet. L'objet sur lequel porte l'interdit n'est pas défini. Et c'est pour ça que j'ai posé mon talit ici. J'ai posé mon talit ici pour deux raisons, en réalité. Deux raisons. Premièrement, le commandement, la loi, dit que sur les franges, dans les tzitzit, il doit normalement y avoir un petit techelet, un fil d'azur. Or, c'est tout blanc, hein? C'est tout blanc. Et pourtant, il est cachère, hein, mon talit. Enfin, les tzitzit, parce que le talit, la question de la cacheroute du talit ne se pose pas. C'est la question des tzitzit, simplement. Les tzitzit, elles sont parfaitement cachères. Pourquoi j'ai pas de fil d'azur? C'est parce que les commentateurs, on sait pas dans ce traité-là, mais le traité Brachot sur le talit, etc. Bref. Ils disent, mais le fil d'azur, la Torah ne définit pas en réalité ce que c'est que Techelet. Nous le comprenons comme fil d'azur, mais nous ne savons pas exactement quelle était la couleur. Certains disent bleu, certains disent vert. Les daltoniens ne disent rien. Ils ne font pas la différence entre les deux. Et donc sur quoi porte le commandement? Tu mettras un fil Techelet. Sur quoi porte le commandement? Sur quelque chose qui n'a pas d'objet. Nous ne savons pas ce que c'est. Donc nous ne le faisons pas, parce que nous ne pouvons pas. Et donc si nous ne pouvons pas, dans les circonstances qui sont les nôtres, nous conformer au commandement, nous n'enfreignons pas le commandement. C'est juste que le commandement est suspendu. Et puis on verra plus tard, lorsque le prophète Élie reviendra, il nous dira comment fabriquer le petit techelet. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Bon. Et oui.
Il est dit que
oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Dont la couleur serait bleue et dont on aurait pris
oui.
cette matière
oui.
pour faire la couleur.
Ouais. Alors, ce qui...
Alors,
c'est assez passionnant parce que.
Le coquillage qui n'est pas caché.
Absolument. Ça voudrait dire qu'on est obligé d'extraire, pour respecter un commandement,
voilà.
une substance d'un animal non cachère. Et alors là, on voit déjà venir les controverses. Voilà. Alors, bon, après tout, on pourrait faire peut-être le parallèle avec la tenue du Kohen Gadol, la tenue du grand prêtre. Après tout, le grand prêtre, il ne respectait pas l'interdit qui dit qu'il ne faut pas mélanger le lin et la laine. Les vêtements du Kohen Gadol mélangeaient le lin et la laine. On pourrait se dire que puisque nous remplaçons le Kohen Gadol et puisque nous portons le talit pour les prières du matin et de l'après-midi, mais pas du soir, eh bien, puisque nous portons le talit, nous remplaçons le Kohen Gadol et que peut-être donc que nous pouvons enfreindre un commandement, parce qu'après tout, le Kohen Gadol a enfreigné un commandement. C'est une piste. Bref, la halakha pratique aujourd'hui dit qu'on ne met pas de fil d'azur, et puis c'est tout. Et c'est même interdit. Mm. Celui qui en mettrait un, parce que ça arrive, il y en a évidemment qui veulent en mettre un, puisque c'est écrit. Ça n'est absolument pas dans les quatre coudées de la halakha. Mais absolument pas, ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que c'est, donc on ne le fait pas. C'est tout simple. Deuxième raison pour laquelle j'ai présenté ce talit, c'est que quel est le type de vêtement qui est concerné par la mitzvah du talit? En fait, ce n'est pas n'importe quel vêtement. D'ailleurs, ça n'est pas un vêtement, ça n'est plus un vêtement, un talit. Hein. Il faut que le vêtement ait des péot. Il faut qu'il ait quatre coins. Les tzitzit doivent se mettre dans les coins du vêtement, dans les coins, pas ailleurs. Si un vêtement n'a pas de coins, comme une veste classique aujourd'hui, on n'a pas à mettre de franges rituelles. Les coins. Pourquoi? Ben parce que, selon moi, c'est un rappel de la Mishnah Pea qui lie l'étude de la Torah à la mitzvah de Pea. Au coin du champ et au coin de la barbe. Alors, il y a des gens dont on sait que quand ils se rasaient le matin, ils pensaient que peut-être un jour ils deviendraient président de la République. Eh bien, un juif, homme, qui se rase tous les matins, doit penser à la mitzvah de Péa. Parce qu'il pense qu'il arrondit, qu'il détruit les coins de sa barbe, et que donc le fait de passer le rasoir sur les coins de la barbe, de la détruire, ça doit être un rappel, un geste qu'il pose, non pas parce qu'il faut se raser, mais parce que c'est un rappel de la mitzvah de Péa. Et donc, la halakha, selon moi, a multiplié à plusieurs niveaux, les rappels de cette mitzvah fondamentale de Péa. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que Péa? C'est l'inscription du manque à différents niveaux. Au niveau du corps, du visage, je regarde mon visage, je me rase et je me souviens qu'il y a du manque, que je dois produire du manque. La Péa, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est, je ne la vois pas. Si je suis propriétaire, donc ça n'est pas le corps là, c'est le corps social. Si je suis propriétaire d'un champ, je dois savoir qu'il y a un coin qui ne m'appartient pas. Et donc, le matin, quand je mets mon talit, et que pour la troisième partie du chemin Israël, je dois regarder mes coins, je les prends tous les quatre dans ma main, je les regarde, et le texte m'oblige à les regarder. Si je récite le chemin du matin, sans prendre les tzitzit dans la main droite, sans les regarder, je ne suis pas acquitté du commandement. Donc, on pourrait, ce serait une lecture très rapide, très sommaire, purement ritualiste. Dire, je m'acquitte de la prière quand je fais ma prière. Je récite ma prière, je me suis acquitté de ma prière. Non. 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 Je m'acquitte de la prière du matin uniquement si je regarde les tzitzit. Si je me souviens que les tzitzit sont placés dans les coins et que le coin, ça appartient aux pauvres et que donc, je ne peux pas faire ma prière, je n'ai pas le droit de prier le matin sans me demander ce que je vais faire pour le pauvre. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de faire ça. Ma religion, mon obligation religieuse, ne doit pas conduire à l'oubli des réalités matérielles, et en l'occurrence de l'oubli du pauvre. Je ne m'acquitte pas de mon obligation de prier si j'oublie le pauvre. Il me semble que c'est ça que vient me rappeler la mitzvah de Péa. Et c'est pour ça qu'on met les tzitzit dans les coins du vêtement et pas ailleurs. Après tout, des franges, ça serait tout aussi joli sur les bordures et pas dans les coins. Qu'est-ce qu'on va mettre des franges dans un coin? Justement parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Péa. Alors, pour conclure, j'espère avoir montré que méthodes et enjeux. Les enjeux sont absolument universels. Étudier le Talmud, c'est quelque chose de purement juif, d'intrinsèquement juif. Mais lorsque je fais ça, je m'interroge sur les pauvres, sur la justice sociale, je m'interroge sur le manque. Est-ce que je suis idolâtre? Qu'est-ce que je fais exactement? Où est-ce que je me suis tué? Est-ce que je me crois sage, tout puissant, tout omniscient? Est-ce que je suis purement ignorant? Ou est-ce que j'arrive à me situer dans cette catégorie intermédiaire qui est difficile à tenir du Talmid Chacham? Est-ce que j'arrive à me situer dans un juste milieu? Alors, il me semble que ça renvoie, c'est une question qui est fondamentale pour les Juifs. J'étudie très modestement le Talmud, j'y passe une heure ou deux par jour. Il y a des gens qui passent 14 heures par jour sur le Talmud. 14 heures par jour. Bon. Donc, à quoi ça sert d'étudier, quoi? À quoi ça rime d'étudier 14 heures par jour? Si on n'arrive pas à partir des problèmes techniques qu'on rencontre dans le Talmud, si on n'arrive pas à abstraire ces problèmes purement techniques pour se hisser à un niveau métaphysique ou philosophique, de questionnement, quoi, humain, pitié, ne restons pas au niveau purement technique. Savoir si je peux manger un ver de terre ou pas, en soi, sauf pour quelques esprits obsessionnels, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que étudier pendant une heure la Mishnah pour savoir si le type qui est sur son cheval, il est propriétaire légitime du chapeau, ou si c'est le piéton qui est propriétaire légitime du chapeau, qu'est-ce que ça peut bien faire? Bon, on pourrait faire un parallèle. Peut-être qu'en voiture, on pourrait voir un chapeau sur le trottoir et qu'on pourrait demander en baissant la vitre à un piéton de prendre un ciel. Le cas peut peut-être se présenter. Mais il me semble que l'intérêt de ça, et c'est Emmanuel Levinas qui le dira beaucoup mieux que moi, dans 4 lectures talmudiques, il est certain qu'en discutant du droit de consommer ou de ne pas consommer un œuf pondu un jour de fête. Alors ça, c'est la première Mishnah du traité Betsa. Ça, c'est un traité absolument... Moi, j'adore ce traité. Je trouve ça fascinant. La première Mishnah, c'est... une poule a pondu un œuf un jour de fête. Peut-on le manger, cet œuf? Quel est le statut de l'œuf pondu un jour de fête? Bon, bref, tout un traité pour ça. Donc, il est certain qu'en discutant du droit de consommer ou de ne pas consommer un œuf pondu un jour de fête, ou des indemnités dues pour les dommages causés par un bœuf furieux, les sages du Talmud ne discutent ni d'un œuf, ni d'un bœuf, mais sans en avoir l'air, et tout le problème est là, sans en avoir l'air, mettent en cause des idées fondamentales. Il faut, certes, avoir rencontré un maître authentique du Talmud pour en être certain, remonter de ces problèmes rituels aux problèmes philosophiques, depuis longtemps oublié par les talmudistes actuels. C'est pas moi qui le dis, je ne me permettrai pas. C'est Emmanuel Levinas. Voilà, le problème aujourd'hui de beaucoup d'étudiants du Talmud, c'est qu'ils en restent à un niveau d'étude purement ritualiste, un niveau de lecture purement ritualiste, et qu'ils n'essayent plus d'accéder aux enjeux philosophiques qui sont sous-tendus par ces problèmes purement techniques. Étant entendu, j'ai sauté dans ma lecture, j'ai sauté ce passage-là, mais je le rappelle, étant entendu que ces problèmes techniques sont très importants pour nous juifs. Nous appliquons la loi. Donc il est important de savoir quoi faire, en quelles circonstances. Mais il est évident que, et le Talmud, notamment le traité Brachot, quand il parle de la récitation du Shema, justement, rappelle à plusieurs reprises qu'on n'est pas censé appliquer la loi sans la comprendre. On est en principe dans l'obligation de savoir ce qu'on fait. Et c'est peut-être par là qu'on va retrouver le Ama Aretz. Personne ne peut être bon juif s'il est ignorant. Ça n'est pas possible. Bon. Alors ça nous amène peut-être au dernier point, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour de la fête de Hanouka. Je vais peut-être en dire un mot, parce qu'il me semble que ça a un rapport avec ce que je viens de raconter. Alors, la fête de Hanouka, c'est cette fête où on... Alors, je ne sais pas comment le dire, tellement je ne suis pas d'accord avec la façon dont on le dit habituellement. La fête de Hanouka, pour moi, c'est la fête la plus compliquée. Pendant des années, j'ai été très embêté avec cette fête. J'ai toujours fêté en étant très mal à l'aise, parce que les commentaires rabbiniques qui nous sont proposés habituellement sur cette fête me mettent très mal à l'aise, et j'avais souvent envie de ne pas la fêter, parce que je ne voulais pas m'associer aux explications qui étaient fournies habituellement. Dieu merci. Expression à prendre au pied de la lettre. Dieu merci. Grâce au rabbin du Talmud, j'ai réussi à formuler un sens pour moi, et je peux agréablement, et sans angoisse, sans arrière-pensée, sans remords, fêter Hanouka. Alors, Hanouka, c'est censé être la commémoration de la victoire au IIe siècle avant notre ère, de la victoire des Juifs sur les Grecs. C'était l'époque hellénistique où les descendants d'Alexandre le Grand avaient la même mise sur Israël et avaient interdit aux Juifs de circoncire leurs enfants, de pratiquer le culte, etc. Certains Juifs, les Asmonéens, les Hashmonaïm, se sont rebellés et donc ont rétabli le culte au temple de Jérusalem. Et certains, dans leurs explications, s'arrêtent là. Ce serait la victoire des Juifs sur les Grecs. Ce serait la victoire de la Torah sur la philosophie. Si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Je suppose que ça n'intéresse pas non plus Lévinas. Non. Ce que dit le Talmud, c'est traité Shabbat, folio 21a et suivant. C'est en rentrant dans le temple qui avait été souillé par les armées grecques, hellénistiques, les Hashmonaïm ont trouvé une petite fiole d'huile qui portait encore le sceau du grand prêtre. Donc ils étaient sûrs que cette fiole n'avait pas été ouverte. Donc elle était rituellement pure. Elle contenait encore de l'huile d'olive pure. Or, ils ont procédé à l'allumage de la menorah du temple, qui avait 8 branches, et cette fiole qui ne contenait de l'huile que pour un jour a brûlé 8 jours. Donc aujourd'hui, on allume tous les jours des bougies pour commémorer ce miracle, miracle de l'huile. Bon. Or, qu'est-ce que c'est pour moi que bien fêter Hanouka ? Eh bien, c'est faire l'inverse de ce qui se fait habituellement. En principe, on allume une bougie le premier soir, deux le deuxième, trois le troisième et huit le dernier. Ça, c'est l'opinion de Hillel. Et on sait que la halakha suit Hillel. Donc la loi juive a été fixée de cette façon-là. Or, bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais Hanouka est une fête assez particulière, très exceptionnelle à bien des égards. Et il se trouve qu'il y a une possibilité de ne pas suivre Hillel, mais de suivre Shammai, son contradicteur. Et donc, ce que je fais personnellement, c'est que j'allume 8 bougies le premier soir, 7 le deuxième, et une seule le dernier. Pourquoi ? Parce que Beit Shammai a, à mon avis, l'explication la plus convaincante pour moi. Il fait un parallèle entre la fête de Hanouka et la fête de Soukhot. La fête de Soukhot, c'est une fête de pèlerinage, lors de laquelle étaient sacrifiés 70 taureaux dans le temple de Jérusalem. Pourquoi 70 taureaux ? Parce qu'il y a, selon le Talmud, 70 nations. Donc Soukhot, c'est une fête universelle. C'est une fête que les Juifs fêtent pour eux-mêmes et pour l'humanité dans son entier. Or, la fête dure 7 jours. Le premier jour, on sacrifiait 13 taureaux. Le deuxième, 12. Le jour suivant, 11, jusqu'à 7. Et si on additionne, ça nous fait 70 taureaux. Donc la série décroissante, elle symbolise la fête de Soukhot, qui est une fête universelle. Elle symbolise, donc brûler 8 bougies, puis 7, puis 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, c'est en fait essayer symboliquement de mettre en pratique ce verset de Zacharie que l'on récite à chaque fin d'office dans le Aleinu. Un jour, son nom sera un. Toutes les nations seront enfin unies. Il n'y aura plus de division. Donc voilà un exemple qui consiste, selon moi, à passer d'un problème purement rituel à un plan métaphysique, au plan de, simplement du questionnement humain, existentiel, quoi. Voilà. De ne pas en rester au problème technique. Bon. Je termine. Dans le traité Avot, qui est un traité du Talmud un peu particulier, on le lit en fait entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, donc entre la Pâque juive et la fête du don de la Torah. Il y a 7 semaines, Shavuot c'est le pluriel de semaine, il y a 7 semaines, il y a 6 Shabbats intermédiaires, et à chaque Shabbat on lit un chapitre du traité Avot, puisqu'il y a 6 chapitres, le hasard fait bien les choses. Et il y a une mitzvah dans le traité Avot qui dit que votre maison soit le rendez-vous des sages. Ce sera une façon pour moi de remercier Eliane et Jean-Marc d'avoir accompli cette bien belle mitzvah. Merci.
Pour cette dernière fois, je suis très très touchée. Ils sont des sages, on n'en est pas là, parce que si je crois ça, alors je sais pas, il manquera mon coin, il manquera ma
sage, part,
manquera,
sage au sens de Talmid Chacham.
Oui, voilà. Mais alors, j'ai pas vu le temps passer, je sais pas vous. C'est passionnant. Je n'avais pas vu cela sur ce plan et métaphysique et philosophique, et puis surtout profondément humain. Je voyais, moi, en ouvrant, combien de fois j'ai pu ouvrir le Talmud et le refermer en disant, mais mon Dieu, pour comprendre un cheveu, on coupe en 4. En me disant, mais quelle perte de temps, mais c'est pas ça, mais enfin, voilà. Tu nous donnes, je le crois, hein, puis vous direz vos commentaires, je me permets de dire, du coup, ce que je ressens, quelque chose qui m'éclaire totalement, parce que d'abord, cette part manquante, moi, elle me parle terriblement. Je pense que quelque part, c'est le manque du manque, n'est-ce pas, de viser la corde même, qui nous fait vivre. Donc il y a toujours ce besoin, oui, on n'est pas complet. Et si on pense qu'on est complet, ben c'est fini. Bon. Et finalement, ce serait presque ce que je comprends, hein, comme cela, rapidement, plus l'étude se fait, plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas. Ça, c'est vrai, de toute façon. Quoi qu'on dise, ça donne le sentiment de ne rien savoir. Mais c'est surtout de mettre en pratique quand même. Ça me plaît beaucoup aussi. C'est pas seulement étudier pour étudier. Et là où je trouve vraiment Gérard extraordinaire, c'est qu'il étudie 2 heures par jour, plus tout ce qu'il fait, son métier, ses enfants, sa famille, ses enfants. Il vit. Voilà, tu vis. Et tu pratiques au sens vivant de la pratique. Et c'est vrai que ces religieux qui ne font qu'étudier et qui ne sont plus dans la vie, ils ne sont plus dans l'humain, ils ne sont plus dans la relation à l'autre. Moi je sais que mon papa ne les aimait pas du tout. Parce que justement, il n'était pas vivant. Donc là, c'est très vivant. Alors après, c'est compliqué. Voilà, c'est très.
On va passer le truc parce que sinon on va pas comprendre la réponse si on n'entend pas l'extrait. Tu n'appuies pas sur le bouton par contre.
Mon cher Gérard, j'admire l'intensité avec laquelle tu nous as parlé. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des conférenciers qui parfois ne font que murmurer. Je pense que tu m'as compris et je vais poser beaucoup de questions. Tu nous as parlé du coin du champ et celui qui sélectionne le pauvre ne fait pas bien. Je te demanderai un peu plus tard nous parler donc de la tzedaka basseter. Faire, comment on appelle ça, la charité, sans parler de celui à qui on donne, c'est-à-dire dans la plus grande,
discrétion.
Voilà. Deuxième question, elle est tout simplement pratique. Je voudrais avoir le titre du livre que tu as cité de Lévinas, mais je ne veux pas prolonger, je veux la place aux autres, et donc je poserai une ou deux autres questions tout à l'heure.
Alors, sur le plan des références, c'est quatre lectures talmudiques.
Quatre
lectures talmudiques aux éditions de Minuit.
Les éditions
Minuit.
Minuit. Quatre lectures talmudiques.
Alors, il y a cinq volumes.
Édition
de Minuit.
Minuit, d'accord.
Alors je profite de cette question pour vous signaler deux ouvrages que je considère comme les meilleures introductions au Talmud. Alors, un premier de Marc-Alain Waknin.
Oui, je l'ai.
Bon, qui s'appelle donc Invitation au Talmud. Il vient d'être réédité
oui.
Chez Flammarion dans la collection Chant. C'est une collection de livres de poche avec la couverture jaune. Cette édition-là n'existe plus, c'est la première édition. C'est absolument clair, très synthétique. Ça me paraît, voilà, pour qui veut avoir une... Non, justement, pas, chez Waknin, pas toujours clair et pas toujours structuré. Là, c'est particulièrement clair et structuré. Donc, ça me paraît, voilà, une très bonne introduction. Si vous vous sentez plus à l'aise, il y a un autre livre de Marc-Alain Waknin qui s'appelle Le Livre Brûlé, mais qui est moins accessible, qui est excellent, mais qui est plus technique. Voilà. Bon. Voilà pour les références. Alors, bon, pour le fait qu'effectivement on ne peut pas choisir son pauvre. Effectivement, il y a un principe de alors, bon, le mot charité en français, faire la charité, donner la charité, en hébreu effectivement c'est tzedaka, c'est-à-dire justice. C'est une question de justice sociale, une question de répartition. Ça n'est pas une question de charité. Ça ne rentre pas dans ce que précisément on appelle gemilut hasadim, donc les bonnes actions. C'est pas ça. C'est essayer de répartir les richesses à peu près équitablement. C'est de justice distributive, pour le dire comme ça, terme moderne. Alors, effectivement, dans ces questions de coin, le Talmud précise que donc le propriétaire, comme on l'a dit, doit laisser le coin à disposition des pauvres. Donc tout le reste du champ lui appartient bel et bien. Donc, le cas se présente, il moissonne. Il apporte la moisson chez lui, quelques épis tombent par terre. Il n'a pas le droit de les ramasser. Le tribunal rabbinique, ça c'est un principe qui est répété à divers endroits du Talmud, déclare les glanures qui sont tombées à terre, efker, c'est-à-dire sans propriétaire. Elles sont tombées en déshérence. Parce que, et ça c'est une interprétation parfaitement psychanalytique, les rabbins du Talmud expliquent que si il a laissé tomber sans le vouloir les glanures, c'est qu'en fait, il voulait les donner aux pauvres. Voilà, c'est un acte manqué, qui comme dit l'autre est toujours réussi. Donc, pour qu'il réussisse parfaitement, eh bien, elles sont déclarées efker, sans propriétaire, et le pauvre a le droit de les ramasser. Donc effectivement, le summum de la justice sociale, c'est que lorsqu'on redistribue les richesses, sans faire la charité au pauvre et sans lui donner de la main à la main, sans lui faire sentir que l'on donne, ce qui est parfaitement humiliant. Et ça, c'est d'ailleurs interdit à différentes reprises dans le Talmud, dans les traités de droit civil, etc. C'est parfaitement interdit. Voilà. Une chose sur laquelle Maïmonide insiste énormément.
Gérard. Vous avez parlé tout à l'heure de juste milieu.
Petite question subsidiaire. Est-ce que le fait d'avoir ce petit bouc au milieu n'est-il pas en train de déterminer vos PA de la barbe?
Alors, ouais. Alors, l'an dernier, j'ai eu une par mail interposé, j'ai eu une longue controverse sur la question de cache-route et boucle d'oreille, parce que certains considèrent que ça n'est pas cachère. Je les renvoie au traité Makot. Il faut juste étudier le traité Makot. Et puis d'ailleurs, la Mishnah que j'ai citée tout à l'heure, en fait, ça ne pose aucun problème. Ce qui est interdit, c'est l'incision que l'on fait dans la chair en l'honneur des morts. On n'a pas le droit de se mortifier. Donc c'est pour empêcher des mélancolies pathologiques, etc., etc. Bref. Donc ça, il y a deux... Il y a deux réponses, je ne peux en donner qu'une. L'autre réponse, ma femme la connaît. Elle sait pour, voilà, l'autre réponse, elle la connaît, je ne peux pas en parler. Oui, bien sûr, c'est une façon de matérialiser, absolument, c'est une façon de matérialiser ma tentative de rester dans le juste milieu, dans le milieu, l'équilibre instable entre... Oui, absolument. Oui, absolument, c'est une façon de départager. Alors, on a le matin, on récite une série de bénédictions, notamment une lorsqu'on met sa ceinture, hein, parce qu'on est dans l'obligation de séparer le haut du bas. Voilà, bon, ben, j'essaye aussi de séparer la droite et la gauche. J'essaye, voilà, de me situer comme ça, voilà, effectivement. Voilà, oui, la boucle d'oreille avait aussi un autre rapport avec Wakenin. Wakenin avait publié il y a quelques années un traité sur le point d'interrogation. Il avait appelé ça l'art de la pêche à la ligne, parce que le hameçon est un point d'interrogation. Le point d'interrogation est une façon d'aller attraper une réponse. Lorsque la boucle d'oreille est ouverte pour la mettre, elle a la forme d'un point d'interrogation d'un hameçon. C'est pour ça que je l'ai mise. J'essaye d'attraper une réponse.
Enfin, c'est beaucoup plus joli que la barbe.
Non,
mais... Oui, merci. Et justement, dans la...
Pardon. Le micro, il est là.
D'accord. Justement, dans la continuité de cette question-là, moi, j'étais très intéressée par ce que tu as dit, par l'ensemble de ton exposé, et par ce que tu as dit au cours de la première partie. J'ai beaucoup pensé au rapprochement que l'on peut établir avec la philosophie grecque, et en particulier avec ce que l'on appelle la fameuse ironie socratique, « je sais que je ne sais rien », et c'est effectivement savoir que l'on sait un peu, et continuer le chemin, c'est justement peut-être encore plus humain que « je sais que je ne sais rien », ou peut-être quand même un tout petit peu plus lucide. Et c'est cette présence du doute permanent qui est la richesse de la connaissance, de la vraie connaissance. Et je ne sais même pas si c'est une question, mais simplement j'avais envie de poser le rapprochement avec la philosophie grecque. Est-ce que c'est un peu, est-ce que c'est stupide ou pas, tu me dis par rapport à la philosophie, Mike. Voilà.
Alors, c'est un débat qui a lieu presque depuis toujours au sein du judaïsme. La place de la philosophie au sein du judaïsme. Bon, là, c'est vraiment le lieu d'un clivage extrêmement profond entre divers courants du judaïsme. Depuis toujours, parce que dans les divers traités talmudiques, il est évidemment question de rapport avec les Grecs, etc. Faut-il étudier la sagesse grecque? Peut-on étudier la langue grecque? Peut-on écrire un rouleau de la Torah en grec, etc. Si un livre est écrit en grec, est-ce qu'on doit le sauver d'un incendie, etc. Bon. Alors c'est une question qui a pris vraiment de l'ampleur et toute son acuité au XIIIe siècle, à la suite de Maïmonide. Puisque Maïmonide était rabbin, mais aussi philosophe, c'est un des grands tenants d'Aristote, bon, au XIIe siècle. Et je crois que c'est la, 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 depuis, il y a une guerre métaphysique à l'intérieur du judaïsme. Certains vont considérer que la philosophie est l'abomination de l'abomination. D'autres vont considérer que, évidemment que la pensée talmudique est sous une certaine forme et d'une certaine manière qui est propre au judaïsme, une entreprise philosophique. Ce que je crois, hein. Je ne comprends pas comment on peut réduire la philosophie à une espèce de caricature qui consisterait à établir un système, qui consisterait à relever du paganisme, qui consisterait à... Bon, voilà, tout ça est pour moi d'une absurdité sans fond et relève de l'obscurantisme le plus total. J'ose espérer que je ne suis pas le seul, puisque de toute façon le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, docteur en philosophie, éminent philosophe, et il essaye de porter haut le flambeau aussi de la philosophie, malgré les obstacles non négligeables qui se présentent, effectivement.
Mario ?
Oui, mais moi, c'est pas enregistré.
Ah, mais on comprend pas la réponse, Mario.
Il n'y aura pas de réponse.
Fais pas ton...
Cinéma. Gérard, je voulais vous dire que j'ose vous avouer que je n'ai pas tout compris et que c'est très, très difficile. Et je me demande comment vous faites pour étudier 2 heures par jour avec votre travail de professeur, de correction, de famille.
On coupera
au montage. Comment ?
On coupera la question au montage.
Non, mais j'admire et je suis ébahie, et c'est tout. Et je repars d'ici en me disant que je ne sais rien de rien.
C'est très bien.
Alors, bon, il va y avoir une réponse. Non, bon, merci pour ce beau compliment, mais... Bon, déjà, je n'ai pas de mérite particulier. J'ai du temps, je le mets à profit. Et je rappelle que je ne fais que remplir mes obligations. Ça fait partie de mes obligations religieuses. Je veux dire, je n'ai pas de mérite particulier. Ma formation professionnelle me facilite la tâche, évidemment. Enfin, c'est un renvoi entre les deux. Donc, de ce point de vue-là, même du point de vue intellectuel, je n'ai pas grand mérite. Et puis ensuite, je ne peux pas vivre sans ça. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. C'est ma respiration. Je veux dire, je vis là au milieu, je suis bien, je suis chez moi là. J'ouvre, je suis chez moi. Entre Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Reish Lakish, Rabbi Yochanan, bon, voilà, je suis bien là. Donc je n'ai vraiment pas de mérite. C'est là où je suis le mieux.
Oui. Tout à l'heure, dans ce petit livre Tu dois connaître, j'ai aperçu un mot parlant de philosophie et Lévinas qui répond « La morale est à l'origine de toute la philosophie » ou quelque chose qui ressemble à ça. Mais j'arrive pas à le retrouver pour te le montrer. Donc je l'ai vu par hasard tout à l'heure avant que tu commences ta conférence. Donc... Je voulais dire ça, mais je voulais dire autre chose. Dans toute, j'ai suivi des quantités de conférenciers de toutes sortes de confessions monothéistes, aussi bien le révérend Ricard autour d'un cercle d'études au Maroc, à l'époque qui a suivi l'indépendance du Maroc peut-être pas en 57 mais en 58-59, et des quantités de fois les conférenciers parlaient de ce juste milieu qui se situe entre le Sherech et Rabbi Meir, et on nous parlait, pour dire exactement ce qu'on voulait dire, de cet illustre inconnu. L'illustre inconnu, c'est celui qui n'est pas connu, qui n'a pas de grande réputation. Mais l'illustre inconnu représente celui, le Talmid Hacham. Qu'est-ce que tu en penses de ce terme, l'illustre inconnu?
Illustre inconnu, peut-être dans la mesure où il n'y a, enfin, à étudier le Talmud, on ne récolte guère de gloire. Hein. C'est pas ça pour être connu, c'est pas ça pour gagner des richesses, quoi que ce soit. Donc de ce point de vue-là, inconnu, oui. Illustre, parce que s'illustrer dans l'étude du Talmud, c'est pour des gens qui... qui ont peut-être la naïveté ou la faiblesse de penser que penser, justement, c'est important, alors c'est la seule gloire possible. Oui. Effectivement, penser, essayer de réfléchir, de poser des questions, d'arriver quand même à des réponses partielles, il n'y a que ça qui puisse profondément définir l'être humain, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'être humain?
C'est... Ce que je retiens de l'ensemble de la conférence, en résumé, c'est le but de cette étude, le but de cette pensée, c'est de permettre l'ordre social.
Oui, alors, je parlais du grand rabbin Gilles Bernheim, je dois avoir quelque part, voilà, je vais vous lire une citation d'une conférence récente de Gilles Bernheim. Pour paraphraser ce que tu viens de dire, hein. Le rituel, c'est un ensemble de préoccupations techniques visant à assurer une juste distance dans les relations humaines.
Exactement.
Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter.
Si on veut résumer, c'est...
Parce que, c'est le but. Bon, c'est bien qu'il y a des doctrines qui pensent que... le fait de respecter des commandements, de manger cachère ou de respecter ceci, cela, permet de mettre de l'ordre dans le monde et dans le monde d'en haut et d'unifier les mondes, etc. Bon, mais d'une certaine manière, que je mange avec ma feuille de salade un moucheron ou que ma salade soit parfaitement cachère, je pense que ça ne change pas grand-chose pour Dieu. Il n'en est pas à un moucheron près, ou à une feuille de salade près. C'est pour nous. Qui d'autre? Qui d'autre est concerné par les commandements sinon les hommes? Donc forcément, on est du début à la fin dans le social. Et ça n'est pas blasphémer, ça n'est pas nier la valeur transcendante des commandements que de dire ça. C'est juste se rappeler que c'est... mais Adam le Chavero. C'est entre soi même et autrui que ça se passe. Et ça se passe nulle part ailleurs. Après tout, un des passages talmudiques 100 fois ressassés, traité Bava Metzia 85a et b, Loba Shamaim i. Elle n'est pas dans le ciel, la Torah. Non. C'est une affaire purement humaine. Loba Shamaim i. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte sur le rituel, c'est important parce que sinon on va amoindrir la divinité ou on va... Mais non, l'eau pas chamaïm. On vit sur la terre, pas ailleurs. Si un jour on est ailleurs, on verra bien ce qu'on fait. Pour l'instant on est là. C'est tout.
Alors...
Elle a une jolie
phrase
là.
Ah, pardon.
Ben, je sais pas. Si.
Non. Si. J'allais me dire si
en
c'est vrai.
Chrétienne, c'est très bien ce qu'elle a écrit.
J'ai l'impression, en vous écoutant, en vous entendant, que Jésus a parlé comme vous.
Eh bien, oui.
C'est normal, c'était un juif.
Oui, mais avec
cette. Et
avec cette ouverture,
ça pourrait heurter quelques-uns de mes co-religionnaires, mais enfin, j'espère, puisqu'il était juif, j'espère qu'il. Oui, bien sûr.
Oui, mais il a parlé
parler du moucheron qu'on filtre et qu'on ne fait pas autre chose. Il y a un passage dans l'évangile. Vous filtrez le moucheron, etc.
Et vous avez les
vous manquez de vous manquez de justice avec votre voisin.
Mais bien sûr. Absolument. Absolument.
Ouais.
Mais oui.
Je m'excuse, mais encore moi, j'ai demandé la parole.
Ah oui. Regarde voir si quelqu'un d'autre. J'ai perdu.
Je vais prendre après.
J'ai perdu le fil. Non, tout à l'heure.
Mais on est entre nous, donc on ne se gêne pas.
Oui. Pour étoffer ma réponse, un peu moins impressionniste, il y a un principe talmudique qui dit mitzvah she'aba be'avera, une mitzvah, un commandement qui vient à travers une transgression.
À travers
une transgression. C'est pour expliquer quoi ? C'est pour expliquer, par exemple, que arrive Pessah, où on ne mange pas de produits fermentés, donc pas de pain, on doit manger des galettes non levées, du pain azyme. Bon, mettons le piéton de tout à l'heure, là, qui a gardé le chapeau pour lui. Le piéton, il a mis son chapeau, il passe devant un magasin, il voit de la matzah, du pain azyme. Il rentre dans le magasin, il y a du monde, etc. Il pique une matzah, il rentre chez lui. Tout bénéfice. Il fait son seder, il rend la matzah, il mange la matzah, etc. La Gemara dit, lo asakloum, il n'a rien fait du tout. Il n'est absolument pas quitte de sa mitzvah, il l'a volé sa matzah. Donc, Marie-Lou, c'est exactement ce que vous dites. On ne peut pas se prétendre religieux si on n'est pas d'abord dans la justice sociale. Je ne peux pas manger de la matzah volée et prétendre que j'ai accompli un commandement. Je n'ai rien accompli du tout. J'ai beau accomplir scrupuleusement le rituel, si je ne suis pas dans la tzedaka, dans la justice sociale, je suis nulle part. Mitzvah, she'aba, be'avera. C'est condamné par la halakha, par la loi juive. Évidemment, j'espère que c'est évident.
Je prends un peu pour moi, Samuel. Alors, plus beaucoup de choses évidemment, parce que c'était tellement beau, tellement riche comme d'habitude. Je peux dire, pour parler vulgairement, que tu nous en as bouché un coin. Pour répondre à Marie-Lou, en fait, le passage de Marie-Lou, c'est Matthieu 23-24, donc l'évangile de Matthieu 23-24, conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Donc, beaucoup, beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Matthieu 23, 24. Tout d'abord, je trouve que tu as renouvelé, en tout cas pour moi, renouvelé et renforcé le désir d'étudier, de consacrer chaque jour du temps à l'étude, tout en étant bien conscient qu'il y a toujours une part de connaissance qui nous sera inaccessible, et d'autre part qu'on a toujours une part sur laquelle il faut veiller, une part qu'il faut réserver, qu'il faut préserver, part pour l'autre. Et je faisais un peu le lien avec dimension symbolique de certaines lettres hébraïques. Le dalet a un coin. Or, le dalet, c'est le symbole du pauvre. Et la lettre qui vient avant le dalet, c'est le guimel. Le guimel, cheminement vers. Et ce qui nous est demandé, c'est de cheminer vers le pauvre, aller vers le pauvre. C'est pas par hasard, à mon sens. Aussi, l'importance du coin quand on connaît l'histoire de Ruth. Ruth, qui est allée glaner dans le coin du champ de Boaz, et Ruth qui est considérée
de Champs, de Vos, ou Boaz, qui est. Enfin, oui, toi tu prononces comme ça, mais il y en a d'autres qui prononcent autrement.
Moi,
enfin,
je ne peux pas prononcer autrement.
Non, mais tu peux aussi nous laisser la possibilité de. Si tu t'appelles Shmuel, puis on t'appelle Samuel, tu te présentes comme Samuel. Donc. Alors, je ne sais plus où j'en étais, du coup. Ah oui, qui est Ruth, qui est. Ruth. Qui est considéré comme l'ancêtre du Messie. Et puis, une petite question. Comment est-ce que tu écris Rabbi Meir? Est-ce qu'il s'agit, ou est-ce qu'il ne s'agit pas, de Rabbi Meir? Rabbi Meir, c'est-à-dire ce rabbin dont la femme était particulièrement érudite. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, d'accord.
Alors, effectivement, sur la symbolique des lettres, comme tu l'as très bien rappelé, le guimel, c'est une silhouette de quelqu'un qui marche avec les deux branches en bas, vers le dalet, le pauvre. Et ça rejoint la question de Samuel tout à l'heure, parce que le guimel vient vers le dalet, mais le dalet tourne le dos au guimel. Donc, celui qui donne au pauvre, le pauvre a le dos tourné vers celui qui lui donne, donc ne sait pas qui lui donne. Ça préserve l'anonymat dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Alors, j'apprécie que tu parles de cette symbolique-là, parce que la citation que tu viens de donner, ça me faisait penser justement à ça, parce qu'il est question de chameau. Pourquoi est-il question de chameau? Parce que le chameau représente Gemilut, Chassadim, les bonnes actions. Gemel. C'est la lettre, mais c'est le chameau. Gemalim, Gemilut, Chassadim, c'est la même racine. Donc, si tu peux rappeler peut-être la citation de Matthieu.
Ouais. De Matthieu 23, 24.
Voilà, c'était.
Donc, conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau.
Voilà.
Matthieu 23, 24.
Ce qu'on reproche, c'est d'avaler le chameau, de détruire Gemilut, Chassadim.
Détruire.
De détruire. Les bonnes actions, c'est ça. Le chameau est toujours, c'est comme dans l'histoire de Rivka, de Rebecca, on lui offre 10 chameaux.
Et du coup, les pauvres sont condamnés.
Et voilà, voilà. Rabbi Meir, oui, c'est bien celui dont la femme était extrêmement savante, effectivement. Et je rappelle à cette occasion, bon, j'ai dit tout à l'heure, parce que je suis obligé de faire simple et d'élaguer, que là, on précisait... C'était traité Hérouvine 13b que la halakha ne suit pas Rabbi Meir, ce qui est inexact. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'une Mishnah ou qu'une halakha est rapportée, de façon anonyme, stam halakha, elle émane de Rabbi Meir. Pourquoi de façon anonyme? Parce que Rabbi Meir immense rabbin, avait pour disciple Rabbi Elisha ben Avuya, qui est devenu hérétique. Et qu'on appelle, alors, deux points. Donc, pour sorte de... C'est une explication, il y en a d'autres, mais une explication, c'est que par une sorte de justice rétrospective, on a voulu punir Rabbi Meir, d'avoir produit un disciple hérétique, et donc la halakha est devenue anonyme. Son nom n'apparaît plus ou pas toujours, disons. Ce qui est intéressant, c'est que ce disciple hérétique aurait pu disparaître complètement du corpus talmudique. Or, il n'a pas été censuré. C'est son nom qui a disparu, et lorsqu'on rapporte un enseignement qui émane de lui, on dit « Acher ». L'autre, c'est l'autre qui a dit ça.
L'autre.
Donc on n'oublie pas que lorsqu'on est un sage du Talmud et qu'on est dans les quatre coudées de la halakha, il y a quand même quelqu'un qui est à l'extérieur dont on a besoin et qu'on ne peut pas exclure.
On a gardé la part
de l'autre, absolument. Et je voudrais, en parallèle, il y a un autre, c'est dans... Oh, j'ai oublié. Hérouvine ou Bava Metzia? Hérouvine 84A. Hérouvine 84A, ça va vérifier. c'est Rabbi Yochanan, avec son contradicteur habituel, parce que c'est toujours par pair, le compagnon d'études, qui était Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, pour les intimes. Un jour, les deux se fâchent, mais se fâchent très violemment, comme il arrive très souvent dans le Talmud. Le cas de l'insulte du Sheretz, ce n'est pas du tout un cas isolé. Resh Lakish meurt. Il meurt. Rabbi Yochanan reste inconsolable. Traverse les rues de la ville, il hurle à la mort, déchire ses vêtements, s'arrache les cheveux. Les sages disent, c'est pas possible, il faut qu'on lui trouve un compagnon d'études. On peut pas le laisser comme ça, il faut quelqu'un pour remplacer Resh Lakish. On nomme le plus brillant des étudiants de cette ville, et ils forment donc cette chavruta, ce compagnonnage d'études. Et chaque fois que Rabbi Yochanan propose une explication, l'autre lui dit « Ah oui, oui, tu as raison, cette braïta montre que tu as raison. » Et Rabbi Yochanan, désespéré, lui dit « Mais qu'as-tu besoin de me dire que j'ai raison? Si je te propose cette explication, c'est que je sais que j'ai raison. » Resh Lakish, lui, aurait proposé 24 contradictions, 24 objections. Voilà.
Et dans le cadre de la violence, tu parlais de la Torah qui n'est plus au ciel.
Oui, il y a Torah Metzia 85.
Et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, oui. Avec toute la tragédie.
Voilà, ça me revient. Alors, j'en viens au ver de terre. Ici même, grâce à l'association Akiva, dont je suis extrêmement content que tu aies accepté la présidence récemment. Nous avons eu, grâce à Eliane qui connaissait un professeur de Kabbale, on a eu des séances de Kabbale avec le professeur Shemuel
Fischer.
Et le monde qu'on avait dans ces réunions-là, qui se passaient le soir, en général le samedi soir, c'était ou bien ici, ou bien on louait une salle à la Caisse des Pannes ou ailleurs, et on se retrouvait pour écouter les rudiments, vraiment les notions élémentaires de la Kabbale, de l'introduction à la Kabbale. Et parmi tant de choses, il nous a dit un jour l'importance du ver de terre dans la Kabbale. Alors, d'habitude, quand on parle de ver de terre comme vermine, c'est méprisant. Donc, depuis ce jour-là, je crois que je ne méprise plus le ver de terre.
En plus, il va devenir consommable.
On n'est pas chez Koh-Lanta. C'est
surtout pour notre humilité.
Alors, il y a un autre exemple peut-être qu'on peut tirer du Talmud. Il y a question d'un ver de terre qui a rendu de fiers services lorsqu'on a eu besoin de construire le temple. Parce que on ne peut pas couper les pierres du temple. Parce que scinder, couper les pierres, les casser avec un poing, un marteau, un glaive, que sais-je encore, ce serait inscrire la violence dans le temple.
Exactement.
Donc ça n'est pas possible.
Comme dans un hôtel, on ne construit pas un hôtel avec un glaive.
Pas de pierre taillée. Voilà. Donc, on a eu recours au chilazon, dit le Talmud, ce qui est un verre qui, peut-être par le liquide qui suintait, qui était acide, etc., peut-être parce qu'il grignotait la pierre, eh bien couper les pierres, dont on s'est servi ensuite pour construire le temple. Donc, le voilà. On a toujours besoin d'un plus petit que soi.
L'histoire de Saül qui était poursuivi, et il s'est caché dans une grotte, et les poursuivants n'ont pas été dans la grotte parce qu'il y avait une toile d'araignée.
C'est David.
C'est David, c'est pas David. Saül. Alors, il était poursuivi par Saül.
Voilà.
Oui.
Mmh.
Tout cela pour dire peut-être que les animaux étaient, comment dirais-je, mis, on va dire, sur terre, par Dieu, avant l'homme. Et que, justement, on doit être en toute humilité. Ils sont là avant nous. Et nous, on est les derniers de la création. Mais...
Sixième jour.
Le soir.
Il y a un midrash dans Bereshit Rabba, c'est le midrash sur la Genèse, hein, sur le texte de la création. Et effectivement, il est dit que... Enfin, on pose la question, pourquoi les moustiques, pour revenir à eux, pourquoi les moustiques et les moucherons ont été créés avant l'homme ? Eh bien, c'est pour rappeler à l'homme qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais que nous avons besoin de...
Absolument.
Pas des moustiques. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire un grand merci ? Et pas seulement aujourd'hui, déjà depuis un petit moment. Merci, Gérard. Est-ce qu'on peut se permettre de demander à Gérard... Un jour, on recommence la même chose.
Oui.
À sa convenance, à sa date à lui,
quand
voilà, et qu'on refasse la même chose.